Le mal agit sans magie. Le malade dit sa maladie. Alexei est aux platines. Œil pour œil, et le monde deviendra aveugle, a dit Gandhi. Et j'ajoute, dent pour dent, et on finira tous au forfait bouillon, option purée. En somme, pour arriver à réaliser un rêve, au commencement, il y a un grand rêveur. Et je les vois dès à présent venir lentement tous ces rêveurs. Alors peut-être faut-il faire quelque chose pour hâter leur venue. Comme écrire pour les accompagner. D'écrire à l'avance sous quels auspices je les vois naître. Par quel chemin je les vois arriver. Ces doux rêveurs. La vie est sensible. Non pas sensible comme une fleur, mais comme le détonateur des bombes. Certes, nous avons une seule vie. Mais si on sait la saisir, la comprendre, elle nous répond, nous remplit, et une seule suffit à nous rassasier. Donc aujourd'hui, j'ai enfermé Alex dans la cabine du DJ. J'ai les manettes et il ne pourra pas me couper le micro brutalement, ainsi qu'il a pratiqué la dernière fois. Comme dans la seconde émission des abeilles, je veux tout d'abord débuter par un courrier. Cela devient si rare, et en plus, il est manuscrit. Contrairement à celui de ce monsieur A majuscule suivi d'un point, qui lui, patiemment, avait découpé, tailladé, fraisé, écorché même, tout un écho républicain, même peut-être deux, ce qui double les ventes, notons-le au passage, afin de me coller sa prose et ses dévissages verbaux sous le nez, en caractère sibyllin, tout taché de colu, en tube. Et même si on sentait bien les ciseaux frénétiques sur le pourtour des lettres, on eût dit là le travail d'un enfant. Pour l'heure ici, pas de collage laborieux, mais de l'encre. Alors pour sa peine, et afin de le remercier, je vais lire la lettre en rentier. Je vous avoue que j'ai dû le retaper avec une police de caractère sans fantaisie. Je pensais savoir lire, mais une fois penché sur ce texte fait à la main, avec un vrai stylo, eh bien je n'ai fait que buter. Habitué à la conserve des architectes de la lettre d'imprimerie, dépassant presque leurs homologues de la boîte à conserve en béton, matériau à la durée de vie complètement idiote, comme le disaient les Romains ayant découvert le procédé il y a plus de 2000 ans, je ne parvenais pas à lire une seule phrase en entier. Et pourtant, l'écriture de ce monsieur était très bien formée, les pleins, les déliés, les petites cellules bien fermées, un travail en ligne, comme les cultures aux Amériques. Celles après les Indiens qui, eux, laissaient la nature faire et suivaient la germination au gré des vents, et sans jamais connaître la famine. Jusqu'au moment où ils ont appris, un peu obligés tout de même, à faire de belles lignes pour faire du blé. Faut bien occuper les gens. Bref, j'ai dicté la lettre de ce monsieur à une application intelligente pour le rendre enfin lisible. À y repenser, c'est à se demander si le courrier anonyme de ce monsieur A, découpé dans le journal, n'était pas tout compte fait, bien plus clair.
The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here.
I got a black cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls lead me by my hand. Then the world I know the hoochie coochie man. But you know I'm here. On the 7 hours, on the 7 day, on the 7 month, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see, I got $700. Don't you mess with me, but you know, yeah.
Préambule, et pour situer la lettre de ce cher auditeur, je vais vous donner son nom, et il ne va pas vous sembler totalement étranger. Lors de l'émission d'octobre, nous avions pris connaissance de la dernière invention géniale de notre maître maraîcher, jardinier en chef de la Butte aux Cailles, située rue des Biches, à Chartres. J'ai renommé l'ingénieux ingénieur, docteur professeur Monsieur Fausanto, René Fausanto, pour ceux qui le reconnaissent encore. Le concombre fugitif et sauteur, vous vous souvenez? Explosif et baladeur. Voilà comment nous fîmes la rencontre avec ce nouveau légume dans le laboratoire expérimental de René. Eh bien, ce fameux courrier, hein? Eh bien, c'est le chien. Son concombre galopeur a fait du chemin. C'est bien le cas de le dire, avec et sans image. Depuis le jour où je l'aperçus qui trottait dans les jardins du docteur Fausanto, il a disparu et n'a plus donné de ses nouvelles. J'étais à ce moment-là, souvenez-vous, accompagné du célèbre Stephen Burness, grand amateur de légumes anciens, mais aussi plus modernes, et qui n'aurait loupé pareille occasion. Car, confidence pour confidence, c'est bien moi, élégamment, qui lui avais soumis cette idée sur Twitter pour son prochain roman, ainsi que son titre, Le concombre au service de la reine. Avec son style ineffable et son vocabulaire, savamment trié par cette fameuse application dite de l'écriture intuitive de chez la multinationale bien connue aux 1 000 milliards de dollars, parce que vous leur donnez, il était bon pour le prix trop court. Un rôle de plus de 10 000 pages, une vision brillante de l'existence sensible et terrestre, entre Dickens et Guy Morve-Musot, presque aussi génial que Troelbeck, mais quand même pas autant que Marcel Gonfré, Éric Gralour ou Laurent Routier, lu tel quel, rien d'autre depuis Delors. Il m'avait en retour, via le réseau d'asocial Facepeel, gratifié d'un splendide autographe, frappé et tapé avec une police sans caractère, là aussi, sûrement dictée par sa commande vocale, et dans lequel il me précisait « Écris comme tu sais écrire, pourvu que ce soit de moi ».
Aucun Boeing sur mon transit, aucun bateau sur mon transat. Je cherche en vain la porte exacte, je cherche en vain le mot exit. Je chante pour les transistors, ce récit de l'étranger. étrange histoire de tes anâmes transitoires, de belles voix dormant qui dorment. Je t'aime et je crains de m'égarer, je sème des grains de pavots sur les pavés de l'anamour. Je t'aime et je crains de m'égarer, je sème des grains de pavots sur les pavés de l'anamour.
Tu sais ces photos de la CIA que j'ai prises à 200 à ça. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vives en panique. J'ai cru entendre les hélices, ta joie brimenteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police.
Je t'aime et je crains de m'égarer, je sème des grains de pavots sur les pavés de l'amour. Je t'aime et je crains de m'égarer, je sème des grains de pavots sur les pavés de l'amour. Oh yeah! Wouhou!
Voici donc enfin la lettre que l'ingénieux Fausanto m'écrit à ce sujet. Et elle est navrante, botaniquement parlant. Vous l'allez voir. Il débute. Mon cher monsieur, je n'ai que du malheur depuis que vous êtes venu. D'abord, mes graines d'hibiscus ont coulé. C'est de ma faute, de ma très grande faute, et je n'accuse personne. J'aurais dû prévoir que l'hibiscus, qui est une fleur très en retard, n'aime pas le Wagner. Où avais-je la tête quand l'idée me prit de lui jouer, sur mon cornet à piston, du Lohengrin, au lieu de l'hymne russe, par exemple, ou le Père la Victoire, qui eût mieux convenu à son tempérament. Ce que je suis vexé, mon cher monsieur, vous ne l'imaginez pas. Ensuite, je n'ai plus revu le concombre fugitif. Il a tenu à justifier son nom, cet animal-là. Il est parti, où est-il ? Que fait-il à cette heure où je vous écris ? Je l'ignore. Vous pensez si j'ai fouillé mes plates-bandes, retourné planches et massifs, exploré coins et recoins, sondé trous et retrous de mon jardin ? Hélas ! Peine perdue. Pas la moindre trace de lui, nulle part. C'est un peu fort, vous en conviendrez. Je ne puis pourtant pas admettre qu'il ait franchi les palissades qui entourent le clos. Elles mesurent 3 mètres de hauteur. Et sont encore surélevés, mon cher monsieur, par un triple rang de ronces artificielles. Ce n'est pas rien, comme vous voyez. Un cerf, un kangourou, un sportif ne pourrait sauter par-dessus. À plus forte raison, un concombre, pas vrai ? Alors quoi ? C'est ici que je m'embrouille. Peut-être a-t-on laissé ouverte une des portes du jardin et facilité ainsi, malveillamment, la fuite d'un végétal turbulent et roublard, toujours prêt à s'esbigner à l'anglaise. Mais il serait revenu, je connais son cœur, volage soit, mais affectueux dans le fond. Peut-être a-t-il eu de l'embêtement. Ou la modestie irait-elle se nicher, mon Dieu, de tout ce bruit fait autour de son nom? Peut-être l'a-t-on volé, tout simplement. Je m'arrête à cette dernière hypothèse, bien qu'elle me paraisse manquer de vraisemblance, pour les raisons scientifiques que voici. Le concombre fugitif, Cucumix fugex, est, sauf votre respect, un légume très méfiant et qui ne se laisse pas prendre facilement. Vous pouvez consulter la flore du docteur Zaza de Musc, le Botanicus Google Magazine, le Dictionaries of the Garden de Bernadette Grivelot, sans parler de Darwin, notre père à tous. Ils vous en diront des nouvelles. Il a de plus une propriété singulière, une arme épatante, si je puis ainsi dire, qui lui est d'un grand secours dans la lutte pour l'existence. Dès que vous le touchez, et il faut être joliment malin pour cela, il vous crache à la figure ses graines comme de la mitraille. Figurez-vous, en plus son bruit, une bombe qui feulerait tel un chat en colère. Naturellement, vous êtes aveuglé, et plus naturellement encore, vous lâchez le concombre pour vous frotter les yeux et revenir de la surprise où cette explosion vous a plongé. Oui, mais pendant ce temps-là, bonsoir, il est parti. Explosif et baladeur, tel est ce diable de concombre. Et de penser qu'il appartient à la famille, si placidement humaine, si formellement sédentaire, des cornichons, voilà qui déconcerte les imaginations les plus hardies. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que votre ami, Stephen Burness, vous savez, celui qui était avec vous ce fameux jour, n'est pas étranger à ce coup-là. On prétend qu'il a des ramifications ténébreuses à Paris. En outre, j'ai appris, sur son compte, des choses peu honorables et, ma foi, tout à fait scandaleuses. C'est un particulier qui ne me revient pas. On ne sait jamais à quoi s'en tenir avec lui. Si c'est sérieusement qu'il parle, quand il nous raconte ses histoires, ou s'il se paye la tête des gens. Son rire me laisse, l'esclavement fini, une sorte d'inquiétude, plus que de l'inquiétude, de la terreur dans l'âme.
Je suis pas peur. perdu un soir d'hiver une musique des yeux rêveurs les tiens maman. Quel beau roman d'amour poétique et pathétique, Ménilmontant.
Sûr de son accusation, persuadé que l'écrivain qui m'accompagnait était le coupable, il continue la lettre ainsi. C'est peut-être qu'il a du style, ce qui me paraît tout à fait anormal et choquant chez un écrivain de la télévision. J'ai lu sa nouvelle, À se tordre, quel titre ! Le parapluie et l'escouade, et tous ses autres bouquins, je le suis fidèlement au journal. Eh bien non, parlez-moi de Philippe Solex, oui. Mais votre Stephen Burness, malgré l'énormité de sa fantaisie, il a de la précision dans l'esprit et même de l'élégance. Je ne puis pardonner à sa gaieté de n'être pas crapuleuse, de rester toujours littéraire et artiste, d'éviter avec un révoltant cynisme les plaisanteries surannées, les farces adolescentes, les verbes abominables par où se reconnaît d'ordinaire et se caractérise un auteur rigolo, aimé des commis voyageurs, des jurés de campagne, des concierges, vaudevillistes et chroniqueurs. Restez fidèles au culte vénérable de cette bonne vieille gaieté française, si déplorablement incomprise aujourd'hui. Et puis, vous ne me ferez jamais à croire qu'un homme qui passe son temps à faire avec des demoiselles de rencontre, dans les bals à Rambouillet, toutes sortes de choses inconvenantes et poivrées, à boire dans les bars avec le capitaine Igloo-Igloo, et qui l'avoue, et qui s'en vante. Jamais vous ne me ferez croire qu'un pareil homme puisse être renseigné comme il est sur les procédés de travail de José Mourinho et sur les mœurs du concombre fugitif, sans qu'il y ait là-dessous des manigances suspectes. Vous avez beau dire et beau faire, ce n'est point naturel. À ce propos, il faut que je vous dise l'idée géniale et, je crois, essentiellement révolutionnaire que j'avais eue. Je voulais faire construire pour l'été prochain un vaste, comment appeler ça, un vaste concombrodrome installé selon les derniers progrès de l'architecture moderne. Là, j'aurais donné, tous les jours, des courses de concombres fugitifs. J'en avais parlé à M. Stephen Burness, qui s'était montré fort enthousiaste pour cette idée. Il m'avait même promis d'obtenir du conseil municipal qu'il allouait un prix annuel de 40 000 roupies, afin d'encourager et de développer parmi les concombres et les autres plantes désireuses de participer au grand mouvement moderne, le goût des exercices physiques, athlétiques et patriotiques, qui ne peut que leur être profitable et salutaire, en même temps qu'il lancerait la botanique dans une voie réformatrice et absolument nouvelle. Grâce à votre Stephen Burness, encore une idée démocratique à volo. Enfin, comme on ne sait jamais ce qui peut arriver, j'ai fait tambouriner le concombre fugitif. Dans toutes les rues de Chartres, j'ai promis à qui me le ramènera, vivant ou mort, des récompenses épatantes. Mais je n'ai pas confiance. Il est probable que celui qui le tient bien. Seulement, s'il imagine qu'il va le conserver en cage comme un serin, ou en bocal, comme un vulgaire cornichon clandestin, il n'y a rien de fait. Il faut de l'indépendance et de la liberté à ce bougre-là. Votre serviteur, etc. C'est signé le professeur et docteur général des chefs pour la région des Grandes Eaux et des René Fossanto. Je n'ai rien à ajouter à Monsieur Stephen Burness de répondre, s'il le juge utile. Allez, bzzz.